RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Salut Louis Amar, bonjour à tous.
Édition spéciale Formule 1 ce dimanche, Grand Prix d'Espagne. Dans un petit peu plus de 2 heures, c'est Valtteri Bottas qui s'élancera encore en pole position devant Lewis Hamilton. On en parle dans un instant, les deux Français sont dans le top 7. Vous les entendrez également dans le Frenchies Corner. Et puis à 13h45, le rallye, l'IndyCar et la Formule électrique dans Radio Paddock. C'est parti pour Motors, bienvenue. Un direct en cours, en ce début d'après-midi, du hockey sur glace. Deuxième match des Bleus au championnat du monde, c'est face aux États-Unis. Morgan Maury, salut Morgan.
Bonjour Louis, bonjour les champions du dérapage contrôlé, début du deuxième tiers-temps.
Plus ou moins contrôlé Morgan, ça dépend du jour.
Surtout contrôlé. Hein. Début du deuxième tiers-temps, dans un instant, ça se passe à Košice, en Slovaquie. L'équipe de France s'est inclinée au tir au but hier contre le Danemark, alors qu'elle a longtemps mené la partie. Et là, c'est un match extrêmement compliqué face aux Américains et sa myriade de joueurs NHL. Les Bleus ont encaissé 3 buts sans en marquer un seul dans le premier tiers-temps. Doublé de Debrinka et but de Franck Vatrano. Début de deuxième tiers-temps, une équipe de France menée donc 3-0 par les Américains. Il va falloir cravacher pour arracher un tout petit point qui serait sympathique dans l'optique du maintien en première division mondiale.
Merci Morgan, à tout à l'heure. 13h06, tout de suite la F1.
RMC Motors. Briefing.
Adrien Tambay est avec nous. Salut Adrien.
Salut Louis, salut Jean-Luc, salut, salut à tous.
Et Lucas Vinoy, perché sur les collines de Montmélo. Salut Lucas.
Hola chicos, j'emprunte une petite expression. Mais bon, je pense que c'est circonstance.
C'est circonstance, absolument. Lucas Vinoy en direct de Barcelone, le circuit de Montmélo, où aura lieu donc tout à l'heure à 15h10 le Grand Prix d'Espagne, 5e de cette saison. Et de 3, 3e pôle consécutif pour Valtteri Bottas, qui décidément est l'homme de ce début de saison.
Et de 3 et de 9, parce que c'est la 9e pole de sa carrière de pilote de Formule 1, tu viens de le dire, la troisième consécutive par rapport à un quintuple champion du monde du calibre de Lewis Hamilton. Ça veut dire qu'il n'a pas fait semblant. C'est un Bottas nouveau, on l'a dit dès hier pendant les qualifs, qui nous a été délivré. Je crois que la cure hivernale, je ne sais pas si elle a été psychologique ou en tout cas elle a produit des effets, puisque on sent une agressivité peut-être avec tout le respect qu'on lui doit, puisque pour le moment l'ambiance, je dis bien pour le moment, entre les deux pilotes n'est pas altérée. Toto Wolff s'est permis de dire lui-même qu'il sentait quelque chose qui lui rappelait Nico Rosberg, Lewis Hamilton lors de la bataille féroce de 2016, qui s'était terminée par la victoire de Nico Rosberg. Est-ce que ça veut dire que Toto Wolff lui aussi titille un petit peu son champion, parce qu'on connaît les liens qui se sont tissés évidemment entre Lewis Hamilton et Toto Wolff. Je pense sincèrement que Bottas va jouer absolument son va-tout jusqu'au bout. Et là, ça passera par un très très bon départ, évidemment, dans ce Grand Prix.
Bottas, qui signe donc la pole position et qui termine la qualification avec 6 dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton. Écoutez-le, Valtteri Bottas réagir à cet écart au micro du camion.
Je ne l'ai vu qu'après. Je n'avais pas réalisé que l'écart entre Lewis et moi était si important. La seule chose que je peux dire, c'est que c'était presque un tour parfait de ma part en Q3. Sur les tours précédents, j'ai à chaque fois trouvé un endroit où je pouvais aller plus vite et j'ai réussi à le faire et à me mettre dans de bonnes dispositions mentales, et c'est vraiment un sentiment agréable.
It's a nice feeling.
Valtteri Bottas au micro de Lucas Vinoy. Est-ce que ces 6 dixièmes sont un petit peu en trompe-l'œil quand même, Adrien?
Oui, 6 dixièmes, c'est quand même beaucoup à Barcelone, sur un circuit que tout le monde connaît par cœur, où tout le monde a ses points de référence, y compris Lewis Hamilton. On sait que dans la deuxième tentative de tout le monde, il y avait des graviers qui s'étaient mis dans le dernier secteur sur la piste, donc personne n'a réussi à améliorer à ce moment-là, ou presque. C'est un écart qui est un peu trop grand entre ces deux pilotes, mais il a fait le job au moment où il fallait faire le tour. Je crois que Lewis Hamilton a eu des problèmes de batterie pendant son premier run, avec un problème de recharge. Il n'est pas sorti au bon moment, il y a eu un problème de timing. Donc bon, c'était pas la séance de qualif parfaite pour Hamilton, mais par contre, ouais, Valtteri Bottas est en train de s'installer en tant que prétendant à ce titre.
Lucas Vinoy, en direct de Barcelone, est-ce que, au gré de ses pôles, de ses performances, de ses victoires, l'atmosphère dans le paddock a changé autour de Valtteri Bottas?
L'atmosphère dans le paddock et puis l'atmosphère chez Mercedes, hein, puisque on le sait maintenant, les pilotes ne se parlent quasiment plus. On est en train de rentrer dans une petite guerre psychologique, comme il y a pu avoir en 2016 avec Nico Rosberg. Toto Wolff nous le confiait hier. Ok, bah voilà, Valtteri Bottas est devenu très très performant cette année. Soit il restait dans le type de performance qu'il avait l'année dernière, il ne gênait pas Lewis et l'entente était bonne. Soit il s'améliorait, il arrivait sur les circuits dans de meilleures dispositions mentales, et à ce moment-là, forcément, les les relations s'en trouvent un petit peu plus compliquées. Donc pour l'instant tout va bien pour Mercedes, mais c'est vrai que l'entente en tout cas entre les deux pilotes a bien changé. C'était deux copains l'année dernière, ce n'est plus le cas cette année.
Je vais réagir là-dessus parce que je connais bien Valtteri, j'ai été coéquipier en Formule 3 avec Bottas et je pense qu'il parlait pas beaucoup avant Valtteri. Et il n'était pas non plus meilleur pote avec Lewis Hamilton, et c'est d'ailleurs une de ses qualités, c'est qu'il ne change pas de comportement. Il est totalement constant, que les choses lui réussissent ou pas, il est dans sa bulle et c'est quelqu'un qui a une ligne de conduite assez droite. Cette année, il trouve la sérénité, il arrive à mettre tout bout à bout. Mais il a toujours été comme ça, et je pense que c'est ça qui fait sa solidité aujourd'hui.
Est-ce que tu sens Lewis Hamilton un petit peu inquiet, perturbé par l'émergence de son équipier qui n'était pas très encombrant jusqu'à ce début de saison, ne mentons pas?
Alors perturbé, peut-être pas encore, mais ça peut venir. C'est pour ça que je disais il y a un instant dans les paris AMC qu'Hamilton doit gagner. Pour moi, il doit gagner pour mettre fin à cette série, ne serait-ce que reprendre la main au championnat du monde et démontrer que c'est quand même lui le patron au sein de l'équipe. Alors maintenant, c'est une réaction normale qu'on enregistre entre deux champions. On ne met pas deux coqs dans le même poulailler, c'est toujours la même histoire. Or, Bottas, qui effectivement l'an dernier s'était cantonné lui-même, il l'a dit, dans un rôle de second, malheureusement pour lui, a bien l'intention de devenir le numéro un et en tout cas d'aller challenger, c'est le mot, le quintuple champion du monde. C'est quand même un monument, Lewis Hamilton. Je le dis et je le répète, parce que quand on les a sous les yeux, on s'en rend pas toujours compte. C'est un monument du sport automobile. Donc, être capable non seulement de l'égaler, mais peut-être de le devancer, bah, c'est un challenge formidable et c'est normal qu'on en arrive à cette situation. Maintenant, j'allais dire, faut pas que ça tourne au mauvais esprit. Et puis, je pense que l'angoisse de Toto Wolff, c'est aussi qu'il y ait des règlements de compte en course, parce que
oui,
tout peut arriver.
Surtout à Barcelone.
Et ben voilà, surtout à Barcelone, ça rappelle des mauvais souvenirs pour Mercedes à l'entrée du fameux virage numéro 4 pour ceux qui l'ont.
2016. Il y a quand même Valtteri Bottas qui est contrôlé de façon bien meilleure par rapport à Rosberg à l'époque par Toto Wolff, tout simplement parce que il était son manager dès ses débuts après le kart, donc toutes les années Formule 3 etc, il le connaît comme s'il l'avait fait, et je pense qu'il y a beaucoup de respect de part et d'autre et de Valtteri Bottas envers Toto Wolff, donc en ça il sera un bon soldat, même s'il faudra battre son coéquipier.
Adrien, il se murmurait quand même au début de saison que si Valtteri Bottas n'était pas performant dans les premiers Grand Prix, s'il peinait à être assez proche de Lewis Hamilton, peut-être qu'une opportunité se présenterait pour Esteban Ocon, qui est sur le carreau cette saison. On entendait ça avant le début de saison. Est-ce que tu penses que cette pression est peut-être aussi la source des performances de Bottas?
Peut-être. Effectivement, il a vécu une première saison en soi qui était plutôt pas mal. On se posait pas mal de questions sur son potentiel. Et nous, on en était sûrs, mais voilà, il a montré dès sa première saison qu'il était rapide, un peu inconstant, mais rapide et capable de devancer Lewis Hamilton de temps en temps. Et sur la deuxième, il y a peut-être eu effectivement une petite dépression, une dépression au bon sens du terme, c'est-à-dire il s'est relaxé, il avait fait sa première année chez Mercedes, il avait un peu moins de pression, il s'est mis un peu dans ce rôle de deuxième pilote, je pense, il a pas eu beaucoup de réussite aussi, et c'était compliqué de redresser la barre,
consigne, la Russie,
voilà, et ça aussi, et je pense que là il a bien remis les pendules à l'heure, et puis il est reparti d'une feuille blanche cette année avec une attitude et une approche différente.
C'est un mental de champion, hein. De toute façon, il l'avait, puisque Adrien le connaît bien. De toute façon, on n'accède pas à la Formule 1, soyons très clairs, si on n'a pas un mental de champion. Bon, déjà, pour évacuer le sujet, là aussi, parfois, on se permet, nous, enfin, moi, toujours avec beaucoup d'humilité, mais quelques pics sur tel ou tel pilote dont on juge que sa prestation n'est pas du niveau. Après tout, on est là pour ça. Et donc, on pourra en parler un peu plus tard. Mais là, Bottas, lui-même, a convenu que l'an dernier il était en deçà, ce que vient de confirmer Adrien, cette année il va être au top, alors maintenant il donne tout ce qu'il a, on verra jusqu'à quand et comment. Ce que j'espère avant tout, c'est que Toto Wolff va conserver cette attitude et laisser ses pilotes se battre à égalité pour l'intérêt du championnat et l'intérêt de la Formule 1.
Valtteri Bottas et Lewis Hamilton donc sur la première ligne de cette grille barcelonaise. Il y a une écurie où on laisse pas trop les pilotes se battre, malheureusement. Cette écurie, c'est Ferrari. Sébastien Vettel, troisième sur la grille, 8 dixièmes derrière Valtteri Bottas. C'est beaucoup, c'est trop, on en parle dans un instant, mais d'abord on écoute Sébastien Vettel.
Nous voulions nous rapprocher des Mercedes et à la fin, l'écart est quasiment le même, peut-être même pire.
Bien sûr, ce n'est pas une bonne journée pour nous, mais bon, c'est comme ça et nous devons l'accepter et travailler dur, revenir aussi vite que nous pouvons. Le départ, c'est aujourd'hui, c'est un jour nouveau, la course est longue et il peut tout se passer. Nous ne sommes pas favoris, mais nous avons quand même une chance de faire quelque chose de bien.
Lucas Vignoy en direct de Barcelone, on a quand même l'impression que les week-ends se suivent et se ressemblent pour la Scuderia, toujours ambitieuse en y arrivant, et puis déçue en repartant.
Non mais il faut poser des mots sur les contre-performances de Ferrari, c'est une catastrophe. Franchement, prendre 8 dixièmes ici à Barcelone alors qu'ils étaient mieux lors des essais hivernaux sur ce même circuit il y a 3 mois, c'est pas possible. Mattia Binotto a beau nous expliquer que finalement pendant les essais hivernaux, Ferrari n'était pas devant et que Mercedes était plus compétitif. Non, c'est pas vrai. Mercedes a été capable d'amener un nouveau package aérodynamique, d'amener des évolutions qui fonctionnent et a complètement largué Ferrari n'est que 1,5 dixième plus rapide sur son meilleur temps en qualification que l'année dernière, quand Mercedes a gagné quasiment 8 dixièmes. Donc c'est qu'il y a un problème du côté de la Scuderia Ferrari qu'il faut essayer de régler le plus tôt possible, parce que là ils sont en train tout simplement de perdre les championnats pilotes et constructeurs.
Et c'est qu'il y a un ogre aussi du côté de chez Mercedes. C'est ça aussi le souci. On a une écurie allemande d'une puissance incroyable d'un point de vue technique, d'un point de vue de ses pilotes, de la gestion sportive, un Toto Wolff qui est quand même, faut le dire, hein, il est quand même irréprochable.
Absolument.
Sur toutes les décisions qu'il prend, que ce soit sportive, politique, technique, c'est franchement impressionnant. C'est impressionnant d'intelligence et il faut aussi leur redonner ça.
Pourtant, Ferrari avait plutôt bâti une équipe prometteuse à l'intersaison avec un nouveau patron, Mattia Binotto, qui était respecté, qui vient du milieu de la technique, à la base, ouais. Donc, dont on pensait la compétence indiscutable. Il y avait Charles Leclerc qui était comme un vent de fraîcheur après Kimi Raikkonen. On se disait, ça y est, deux pilotes qui vont pouvoir se battre, qui vont se pousser les uns les autres. Et puis finalement, Jean-Luc, rien ne change.
Alors, première question, si on veut isoler un tout petit peu et pour appuyer les propos d'Adrien, il y a la question technique. Or, est-ce qu'on n'a pas malheureusement échangé un excellent directeur technique, Mattia Binotto en est un, quelqu'un qui est chez Ferrari depuis plus de 20 ans, depuis 96, qui avait tout suivi, dont les compétences techniques sont excellentes, pour un team manager moyen, j'ose déjà le dire, dont la gestion à deux reprises depuis le début, et tu sais ce que je vais dire, où on a cassé les ailes de Charles avec des consignes qui n'étaient pas les bonnes, manifestement, donc on s'est tiré une balle dans le pied, je répète, et quand Vettel, bien embarrassé, disait à l'issue du Grand Prix, on aurait dû faire 3 et 4, bah oui, mais 3 et 4, c'était 3 Leclerc et 4 Vettel, toi, normalement, ouais. Bah non, on a fait 3 Vettel et 5 Leclerc, donc déjà, énorme erreur stratégique, faut le dire. Donc, j'en reviens à la technique, malheureusement, Mattia Binotto, qui doit également négocier la reconduction des fameux accords Concorde, et ça leur prend énormément de temps en réunion, n'est pas focalisé sur la technique comme il l'était. Donc j'en reviens à ce que je disais, on a voulu faire de Mattia Binotto l'homme qui allait tout coiffer, c'est-à-dire être le patron de l'équipe et à la fois le patron technique. Non. Alors il y a quelqu'un, moi, en quel je crois chez Ferrari, c'est Laurent Méquies, c'est un Français.
Oui.
Vous connaissez son
parcours.
Ancien
de la FIA.
Ancien de la FIA, effectivement, il était au sein de la FIA pendant 3 ans après avoir été chez Red Bull, etc., et chez Toro Rosso. Mmh. C'est un type très performant. C'est un type qui, je pense, a d'énormes qualités. Est-ce qu'on va les laisser...
Et son poste chez Ferrari, Jean-Luc?
Ben, pour le moment, il est, on va dire, sur le muret. Il est au niveau de la stratégie.
Directeur sportif,
exactement. Mais peut-être n'a-t-il pas encore l'espace pour... je pense que ce serait une bonne idée, peut-être, de miser sur quelqu'un de la part de Binotto pour lui laisser le champ totalement libre. En tout cas, là, il faut tout de suite prendre des mesures, parce que si on reste comme ça, on n'y arrivera pas. Et puis, je rappelle que Ferrari a apporté effectivement des nouveautés moteurs, mais également aéro, qui étaient prévues seulement au Canada, donc avec deux grands prix d'avance, notamment au plan technique. Ça veut dire que là aussi, on va devoir faire le reste de la saison maintenant, et c'est énorme, hein, on rappelle qu'il n'y a que 3 groupes propulseurs jusqu'à la fin de la saison. C'est un challenge, et je sens qu'on est déstabilisé chez Ferrari, là où on est sûr de son fait chez Mercedes.
Justement, Adrien, le week-end de Barcelone, le premier Grand Prix européen, est d'habitude l'occasion d'apporter énormément d'évolutions techniques sur les voitures. On dit que c'est même une deuxième saison qui commence à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que si Ferrari n'est pas performant cet après-midi, l'ensemble de la saison sera difficile, ou est-ce qu'on ne pourra pas encore en tirer de conclusions trop hâtives ?
C'est ça qui est inquiétant. C'est que c'est le circuit où on aurait pu imaginer ou espérer pour le spectacle que Ferrari revienne dans le jeu et arrive à se hisser au niveau ou juste au-dessus de Mercedes. Mercedes. Malheureusement, c'est clairement pas le cas. Et quand on voit avec quelle performance Ferrari a débuté le championnat, donc elle était très performante, la Ferrari. Pour l'instant, ça va dans le mauvais sens. Et on a en plus de ça raté des occasions, des opportunités sur les circuits. On a été en passe de faire des doublés à chaque fois.
Et on aurait pu gagner. On aurait pu changer, on pourrait presque être à égalité.
C'est vrai. Championnat. Avec les deux constructeurs, et c'est pas du tout ce qui se passe. Et on arrive à un moment où Mercedes s'est amélioré, a développé sa voiture, et Ferrari ne semble-t-il n'arrive pas à suivre le rythme. Il faudra attendre la course. On a entendu les propos de Sébastien Vettel, un peu démago, mais parler de la performance sur des longs relais. On va vérifier
on va voir,
cet après-midi.
On va voir. Celui qui était aux portes du triomphe à Bahreïn, c'était Charles Leclerc. Hier, il n'a fait que le cinquième temps des qualifications, Charles Leclerc. Écoutez-le, presque surpris de cette contre-performance.
Je m'attendais pas du tout à perdre une aussi grosse pièce en passant sur ce vibreur. J'y suis passé tout le week-end, mais là malheureusement, je sais pas, on a dû le prendre différemment. Ou alors ça arrivait un peu plus vite, donc la voiture était un petit peu plus basse et ça a touché. Je pense que ça jouait un peu, mais malheureusement ça a eu de grosses conséquences. Donc après la Q2 est très 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 difficile. Et la Q3, pour moi, c'est encore un petit peu un point d'interrogation. La voiture était assez différente à ce que j'avais avant. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit truc. Après, il faut regarder la voiture, la checker et voir s'il y a tout qui va bien pour la réparer pour demain.
Jean-Luc.
Juste pour expliquer les propos de Charles, effectivement, c'est le fameux virage numéro 9, cette cassure au sommet, au point le plus haut du tracé, qui passe à fond, on passe à 270-280 en F1, et on finit la trajectoire donc sur les vibreurs à l'extérieur, et donc Charles a chevauché ce vibreur comme il l'a fait régulièrement, et là, on a vu tout de suite dans le sillage de la Ferrari des morceaux de carbone giclés, donc il a apparemment abîmé en partie le fond plat et le bargeboard sur le côté, qui ça commence à ressembler à nouveau à un empilage architectural insensé, alors qu'on avait épuré tout ça et c'était bien mieux. Bon, bref, je passe là-dessus. Donc, ça a malheureusement handicapé la performance technique de la Ferrari. On a essayé d'y remédier chez Ferrari, mais pas suffisamment, manifestement. Je pense que ça explique. Alors, c'est pas non plus un gouffre, mais il est à 3 dixièmes.
Non, mais ça peut largement être les 3 dixièmes.
Ça peut être les 3 dixièmes. Pour ça qu'il comprend pas, Charles. Ouais. On avait normalement remis la voiture en état, mais ça peut l'expliquer. Voilà. Ouais.
Lucas, on sent effectivement à la fois chez Charles Leclerc et chez Sébastien Vettel une forme d'impuissance, d'incompréhension devant le comportement de leur voiture. Est-ce que tu l'as senti aussi, toi, en étant devant eux à Barcelone ?
Bien sûr, oui, ils sont un petit peu désabusés forcément quand vous donnez tout ce que vous avez en qualification et que vous prenez 8 dixièmes et un petit peu plus d'une seconde, c'est terrible parce que depuis le début de la saison, en plus les pilotes Ferrari pensaient qu'ils allaient pouvoir jouer devant. Finalement, c'est 4 Grands Prix, c'est 4 doublés Mercedes, ça commence à faire beaucoup dans la besace des pilotes Ferrari, et ils sentent bien qu'ils n'ont pas la solution. En plus de ça, sur les longs relais, même si Sébastien Vettel se veut plutôt optimiste, ils sont clairement derrière Mercedes, ils vont devoir plutôt regarder dans leur rétroviseur avec Red Bull que plutôt devant, donc forcément non, ça va pas bien, et en plus on a amené un nouveau moteur ici, on pensait que ça allait porter ses fruits. Alors oui, le nouveau moteur fonctionne bien, mais vous perdez tellement dans le troisième secteur que voilà, vous êtes pas capable de rivaliser avec Mercedes, et pourtant c'était la mission de Ferrari cette année.
Et puis c'est un circuit où finalement les dépassements ne sont pas aisés et où les qualifications ont quand même de l'importance.
Mais c'est un des circuits les plus compliqués pour dépasser, même s'il y a une très longue ligne droite. On a tout fait d'ailleurs avec cette chicane avant le dernier virage pour ralentir les voitures pour qu'elles puissent se suivre et se rapprocher pour qu'il y ait plus de dépassements. Mais c'est pas le circuit où c'est le plus facile. En tout cas, comme le disait Lucas, c'est dans le dernier secteur que les Ferrari semblent perdre du temps. Donc c'est dans le secteur le plus technique, le plus lent du circuit, là où on a besoin de motricité, d'agilité de la voiture. Et rappelons-nous que c'était le point fort de la Ferrari dans le passé. On a essayé de se rapprocher de Mercedes sur plein de choses, sur le moteur, sur les virages rapides, mais apparemment les points forts ne sont plus des points forts aujourd'hui.
On revient au Ferrari dans une seconde, mais d'abord arrêtez les rotatives. 13h24, qu'est-ce que c'est que cette Marseillaise, Lucas Vinois?
Et c'est un week-end bleu en sport automobile. Simon Pagenaud s'est imposé, Jean-Éric Vergne s'est imposé, Julien Andler vient de s'imposer en Porsche Super Cup, donc Pierre Gasly va s'imposer tout à l'heure. Voilà,
merci beaucoup Lucas, c'est très bien, on restera du coup.
J'allais juste dire quelque chose, c'est la température. Il ne fait pas aussi chaud qu'il aurait dû ou qu'on a l'habitude de voir à Barcelone, et on sait que la température est la meilleure alliée de Ferrari pour les fameux rendements pneumatiques. Donc, je ne sais pas, Lucas va nous le confirmer, quelle température il fera cet après-midi, mais j'espère, encore une fois, pour la performance des Ferrari et pour l'intérêt du championnat, que la température va s'élever et va aller dans le sens de l'exploitation des pneumatiques, parce que la clé, elle est là. Et va-t-on avoir la même stratégie, d'ailleurs, du côté de Ferrari et du côté de Mercedes? Voilà, deux questions en une, Lucas.
Evelyne Delia, à Barcelone.
C'est ça, est-ce que t'as une grenouille là-bas?
Non, il fait un peu plus chaud. En effet, il fait un petit peu plus chaud qu'hier. Donc, comme tu le dis, ça devrait avantager les Ferrari. Le problème, c'est que la fenêtre d'utilisation parfaite pour les pneumatiques de la part de Ferrari est très restreinte, alors que celle de Mercedes semble beaucoup plus large. En tout cas, c'est ce que Toto Wolff nous confiait.
Ils ont pas les mêmes pneus
hier soir.
Non, je rigole.
Ils ont les mêmes pneus, mais malheureusement, en effet, la fenêtre d'utilisation est plus large, plus grande, plus simple. Ouais. En tout cas, du côté de chez Mercedes. Après, il y aura la stratégie. Est-ce qu'on s'orientera plus sur deux arrêts ou plus sur un arrêt? Ça, ce sera encore une autre question, mais bon, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, le rythme de course semble tellement à l'avantage de Mercedes que on voit mal, franchement, Ferrari aller jouer devant.
Juste en un mot pour ces pneumatiques, c'est tellement important. On rappelle que le rendement d'une monoplace à 80%, c'est l'exploitation des pneumatiques et le moteur, évidemment, c'est très important. L'aéro, bien sûr, mais c'est la fenêtre d'exploitation. On est à 110 degrés à peu près le fonctionnement des Pirelli et ça fonctionne sur 5 degrés, pas plus. Alors effectivement, si Mercedes a trouvé le moyen de fonctionner sur 7, 8 ou même 10 degrés, ça paraît anodin, mais non, comme le signale Adrien, et c'est extrêmement important d'avoir, et comme le disait Lucas, d'avoir une fenêtre de fonctionnement plus importante. Ça permet d'avoir des stratégies évolutives également.
On résume, Valtteri Bottas en tête devant Lewis Hamilton, Sébastien Vettel 3e, Charles Leclerc 5e, comme rien ne vous échappe, vous vous rendez compte qu'il manque un 4e? Eh bien, le 4e, c'est lui, Max Verstappen.
Nous pouvons gagner que si les deux Mercedes s'éliminent elles-mêmes, parce qu'ils ont été très rapides tout le week-end. C'est vrai que j'étais proche de Sébastien et il peut se passer énormément de choses pendant la course, surtout que nous sommes toujours un peu plus compétitifs le dimanche. 4e, au final, c'est une bonne place pour prendre le départ de la course.
Max Verstappen au micro de Lucas Vinoy.
Qui s'était imposé en 2016.
Pour son premier Grand Prix.
Absolument.
Avec son premier Grand Prix avec Red Bull, faut-il le rappeler.
Et puis c'est à ça qu'il fait référence, hein, quand il dit nous ne pouvons gagner que si les Mercedes s'éliminent elles-mêmes.
Mais
il fait directement référence à 2016.
Parce il doit se frotter les mains.
On se souvient, Hamilton et Rosberg étaient allés à la faute.
Oui, c'était en fait Nico Rosberg qui partait en tête et qui avait touché son volant, un mauvais bouton, le mode moteur et Lewis Hamilton avait réussi à prendre l'avantage un court instant et puis c'était allé au clash et ils avaient tous les deux arrêté leur chemin dans le bac à gravier du virage 4.
Donc Verstappen, qui est un malin malgré son jeune âge justement, doit se dire, si je peux mettre une petite pièce et susciter un petit peu de poil à gratter entre les deux hommes de tête, ça il sait faire. Puis c'est un rugueux, hein, on se souvient, il y a son copain Raikkonen dans ses pour rire.
Max Verstappen donc 4e sur cette grille de départ. Et puis les 6e et 7e, on y vient dans un instant, sont nos Français Pierre Gasly et Romain Grosjean. Tout de suite dans Motors.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Bientôt 13h30 sur RMC, merci d'être avec nous dans Motors, avec Jean-Luc Roy, avec Adrien Tambay et avec Lucas Vinoy en direct de Barcelone. Dans un instant, on poursuit de décortiquer la grille de départ de ce Grand Prix d'Espagne et on parlera de nos Français qui sont placés haut dans le top 10, Pierre Gasly et Romain Grosjean. D'abord le direct, France, États-Unis, championnat du monde de hockey sur glace, Morgan Maury.
Les Américains ont ajouté un but signé Colin White, 4-0 pour les Américains à 5 minutes de la fin du deuxième tiers-temps. Les Français sont plus courageux, plus vaillants, plus dangereux aussi, ils ont touché les poteaux américains, mais ça ne rentre toujours pas, 4-0 pour les États-Unis à 5 minutes de la fin du deuxième tiers-temps.
Merci Morgan. Dans un quart d'heure, Radio Paddock, mais d'abord on en revient à la F1, on en arrive à nos Français.
RMC Motors, le French's Corner.
Et jusqu'ici, tout va bien. Pierre Gasly est pour l'instant en 6e position, juste devant Romain Grosjean. On parlera de Grosjean tout à l'heure. Mais d'abord Pierre Gasly, qui est à 3 dixièmes et demi de son équipier chez Red Bull, Max Verstappen. Est-ce que petit à petit, on peut dire, messieurs, que c'est en train de se mettre en place pour Pierre Gasly et qu'il commence à prendre ses marques dans sa nouvelle équipe, Jean-Luc?
Effectivement, on peut le dire, avec le micro c'est mieux, et je crois qu'il a eu effectivement quelques petits soucis, notamment techniques, Adrien en parlera plus précisément que moi, mais peut-être d'évolution qu'il n'avait pas, et puis un mauvais enchaînement de circonstances. En tout cas, on attendait ce moment, là il est à 3 petits dixièmes et demi en qualif de Verstappen, dont on a dit qu'il appréciait le circuit. C'est une belle performance. Il est sixième. Il est sur la troisième ligne de la grille de départ. Il sera donc aux côtés de Charles Leclerc. Je pense que voilà, peut-être, je me lance, la première vraie belle course que Pierre peut faire. La dernière était magnifique. Il est parti des stands. Il était dernier, oui, avec une stratégie décalée. Il roulait dans les mêmes temps que Charles Leclerc, qui était en tête du Grand Prix avec la Ferrari. Il faut le dire.
Il avait clairement le même rythme.
Il avait le même rythme, exactement. Au 38e tour, il a un problème technique. Sinon, il y avait une sixième place à la clé. Ouais. Donc là, on lui souhaite mieux que la sixième place de départ, de laquelle il s'élancera.
J'ai parlé un peu avec Pierre, effectivement, et je crois que c'est une situation assez compliquée à gérer pour lui, parce que nous, assis sur nos chaises devant la télé, on a du mal à savoir ce qui se passe vraiment en coulisses, et on connaît toute la politique qu'il y a en Formule 1, et en plus de ça chez Red Bull, on est sans cesse en train d'apporter des développements aux voitures. Parfois on ne peut pas apporter les mêmes développements sur les deux voitures, et en l'occurrence c'est ce que Pierre m'a un peu expliqué. Bon, lui, il peut pas le dire, mais on va le dire pour lui, parce que Helmut Marko et Christian Horner ne nous écoutent pas.
Ils ont longtemps écouté votre horse, mais plus maintenant.
Il avait tout simplement, en Chine, par exemple, et au Grand Prix d'avant à Bahreïn, pas les mêmes évolutions que Max Verstappen. Et en plus de ça, en Chine, il avait un problème moteur qui lui coûtait quelques dixièmes au tour. Donc quand on parlait des gros gap, des gros écarts entre lui et son coéquipier, il y a une partie qui est peut-être un peu de confiance, un peu de pilotage, mais ça c'est minime. On sait que Pierre est un très très bon pilote, tout comme Max Verstappen est entre un très très bon et un poil moins bon, il y a jamais plus d'un dixième au tour. Donc quand on voit 8 dixièmes, c'est qu'il y a une autre explication.
Voilà, à 2-3 il est bien.
À 2-3 il est pas loin, mais si ça se trouve, encore une fois, il a pas les mêmes évolutions ce week-end. On sait pas complètement tout. Voilà, et il faut laisser à Pierre le temps d'aller choper un bon résultat, un premier très bon résultat, et c'est peut-être aujourd'hui, comme tu le disais, Jean-Luc.
Et je rappelle que le docteur Helmut Marko, à qui je souhaite avec flagornerie un bon anniversaire, c'était il y a pas longtemps, donc il a été pilote
des fois qu'il nous réécoute,
des fois qu'il nous réécoute pour cette fois-ci. Non, pour être plus sérieux, on sait que l'accent est mis sur Verstappen, et tout le monde le sait, dans l'écurie et à l'extérieur. On se dit que Max Verstappen est un futur champion du monde. On fait tout pour lui, et on dégage le terrain pour qu'il ne soit pas ennuyé. Moi, je rappellerai jusqu'au terme de cette saison-là, après je vous promets j'en parle plus, que lors de la première qualification en Australie, on a fait ce qu'il fallait pour mettre Verstappen loin devant Gasly, sans problème, et comme ça Pierre est parti de loin derrière, et comme ça la hiérarchie était d'entrée placée. Donc je suis désolé, mais c'est une évidence absolue, ce qui corrobore ce que disait Adrien il y a un moment. Maintenant, on aimerait bien, évidemment, à commencer par Red Bull, que Pierre revienne dans le coup, parce qu'il y a des gros points à prendre. Parler trop longtemps. On aimerait bien que Pierre soit à un très bon niveau, parce que les points qu'on prend, et on se bat quand même pour le championnat du monde, et puis on se dit qu'avec les problèmes de Ferrari, on n'est peut-être pas si loin que ça de la deuxième place.
Et puis si vous avez un doute sur l'attitude de Red Bull vis-à-vis de Max Verstappen, si vous ne nous croyez pas au mot près, et ben je vous conseille d'aller regarder le documentaire sur la Formule 1, dont tout le monde parle en ce moment, que vous pouvez retrouver sur Netflix, et où là vous voyez l'attitude de Christian Horner par rapport à Max Verstappen, et c'est extrêmement clair. Pierre Gasly qui s'élancera donc pour y revenir en sixième position, juste devant lui, on en parlait tout à l'heure, Charles Leclerc. Les deux sont très amis, ils se connaissent bien depuis longtemps. Bon, ils vont s'arranger, Pierre Gasly.
Ah bah ouais, on va se mettre d'accord. Moi, j'essaie de le doubler, lui il va essayer de rester devant. À mon avis, ça va être à peu près ça. Non, c'est sûr. Une fois qu'on met le casque sur la tête, c'est la guerre et on donne tout ce qu'on peut pour finir devant.
Lucas, ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu se marrer comme ça, non, Pierre Gasly?
Ouais, non, c'est vrai que ça fait du bien, parce que c'est quelqu'un d'assez jovial, plutôt solaire, Pierre Gasly, et c'est vrai que franchement, on le voyait un peu traîner son spleen dans le paddock depuis le début de la saison, ça faisait peine à voir. Donc là, ça va beaucoup mieux, les choses sont en train, doucement mais sûrement, de se mettre en place. Comme vous le disiez, c'est pas facile d'être chez Red Bull, on a l'impression que Max Verstappen, Helmut Marko et Christian Horner font partie de la même famille, donc forcément, c'est toujours difficile de venir dans cette écurie. C'est un petit peu à l'image de Marc Marquez chez Honda en moto, c'est pour moi c'est exactement la même chose. Mais bon, voilà, les deux hommes s'entendent très bien, comme vous le savez, ils viennent de monter tous les deux sur le camion, et puis Daniel Ricciardo nous a fait un petit saut de kangourou pour monter sur le camion comme à son habitude, l'Australien qui est toujours d'humeur.
Oui, c'est ça.
Pourtant, toujours blagueur.
Pourtant, il n'y a pas de quoi.
Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. C'est ça, c'est ce que t'allais dire.
J'allais juste rappeler le classement général provisoire du championnat pour dire que, quand même, Pierre est septième pour le moment. Il a 13 points. Il est au niveau de Sergio Pérez. Bah, c'est pas si mal. Ma foi, évidemment, il y a un gap. Après, Charles Leclerc devant est à 47 points. Et je veux dire, malgré ses malheurs, entre guillemets, eh ben, si là, on arrache des gros points, aller dans le top 5, Pierre.
Alors, oui, justement, Adri, c'est quoi un bon résultat pour Pierre Gasly cet après-midi? C'est être au pire sixième?
Un bon résultat pour Pierre, c'est d'être devant Max Verstappen.
Voilà, c'est ça.
Bah, il y a pas de là-dessus. Non, il y a pas de débat. Je pense que c'est un champion et qu'il a envie d'être devant son coéquipier. C'est la seule ou la vraie target pour lui, c'est de battre Max Verstappen. Et en course, c'est faisable. Maintenant. Le Verstappen, il est coriace.
Le laissera-t-on le battre?
On le laissera. Moi, j'ose espérer quand même qu'il y a un minimum de sport là-dedans. Voilà.
On y croit. Voilà. L'optimisme.
Le visage était manquateur.
Moi, j'y crois pas. Voilà. J'ai pas l'occasion de voir le body language, mais ça devait être terrible.
C'était effroyable. Voilà.
En général, quand on finit une phrase par général, c'est qu'on est, on n'est pas sûr de son coup. Romain Grosjean, lui, sera en septième position, le premier des autres, derrière les trois cadors, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Eh bien, c'est As, Romain Grosjean. Grosjean en 7ème position, écoutez-le au micro de Lucas.
On peut toujours espérer le meilleur, il faut toujours viser haut. On a une bonne position de départ. Après, clairement, nous, c'est de marquer des gros points avec les deux voitures. Devant, bon, moi, ça va un petit peu trop vite, même si on n'est pas loin des Ferrari. Je suis fier de l'effort qu'on a fait ici. C'est une belle qualif. Je pense qu'il y a encore des petites choses à comprendre à droite à gauche. Mais dans l'ensemble, je suis ravi avec le travail qui a été fait, avec l'évolution et avec la voiture.
Romain Grosjean, micro de Lucas Vinoy. Pour lui aussi, ça va un petit peu mieux.
Eh ben, écoute, il valait mieux parce qu'effectivement il n'a pas marqué de points depuis le début du championnat. Ce championnat qui rappelait malheureusement, bon, pas dans tous les faits, fort heureusement, mais celui de l'an dernier où il a vendu 8 grands prix avant de commencer à concrétiser en Autriche de mémoire. Et on rappelle qu'en Espagne ça s'était pas bien passé non plus. Hein, on va croiser les doigts en disant ça au virage numéro 3. Bon, s'il passe le virage numéro 3, ça ira mieux. Non, je fais toujours un petit peu d'humour parce que ça désamorce la situation. Je suis persuadé que la voiture est là parce que Magnussen est là aussi. On exploite mieux les pneumatiques. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne comprenait pas du tout chez As pourquoi ça ne fonctionnait pas jusque-là. Et d'un seul coup, c'est formidable. Tant mieux. Et donc, ça veut dire qu'il y a un beau tir groupé à effectuer. Et pourquoi pas Romain dans les points et avec des gros points également. Parce que, alors après, aller chercher Mercedes, Ferrari et Red Bull, ce sera
compliqué, surtout qu'on sait que c'est le point faible quand même de la As depuis le début de l'année, c'est les longs relais. En qualif, ils arrivent plus ou moins à s'en sortir. Ouais. Mais là, il y a un vrai step en qualif. Et chez As, on espère pouvoir garder leur position de départ. C'est plus ça la question. Aller chercher devant, ça sera compliqué. Maintenant, pour l'instant, Romain fait un week-end parfait. Essai libre 1, essai libre 2, qualif, tout va bien. C'est aussi un circuit où il est très performant, qu'il connaît très bien. Et avec la mésaventure de l'année dernière, ça serait sympa qu'il arrive à marquer de gros points aujourd'hui.
Mais on cogite avec une mésaventure comme celle qu'il a vécue l'année dernière au moment d'entrer sur
il a oublié. Il en a eu pas mal quand même des mésaventures. Romain, donc il est plus sur cette mésaventure là et là il est plutôt dans le positif. On l'a entendu au son de sa voix, il veut aller chercher plus haut, donc il va pousser au maximum.
Mais il y en a d'autres qui vont l'empêcher, attention. Il y a un certain Lando Norris et celui-là, je crois qu'on en a peu parlé au début de la saison parce qu'on n'a pas eu l'occasion.
Mais prenons le temps, on l'invite dans le Frenchies Corner,
J'allais dire, puisqu'il peut contester effectivement une partie en tout cas de la réussite de nos Français, il fait pas d'erreur, lui non plus. La McLaren, Renault, parce que Renault est à la peine par ailleurs, est performante. Et là, cette fois, enfin, chez McLaren, on a réussi à refaire un châssis. Donc, c'est une très bonne nouvelle, avec un moteur qui est meilleur qu'on ne le voit dans le châssis Renault, malheureusement pour Renault. Lando Norris est extrêmement talentueux, mais ça, nous le savions également. Et puis, je n'exclurai pas, je sais que ça fait sourire au départ, mais Daniil Kvyat, qui est le nouveau Daniil Kvyat 2019, là aussi, c'est une très bonne cuvée.
Il n'a pas de barbe.
Mais il est teigneux. Il a une monoplace qui est performante, motorisée par Honda, et on l'a vu avec de hautes ambitions. Donc
il va devenir papa d'ailleurs. C'est peut-être pour ça. Tu sais qu'il est avec, il est avec la fille de Nelson Piquet. Voilà.
Ah d'accord.
Et elle est enceinte.
Tu connais le prénom du petit.
Non.
Le fameux âge de la maturité. Voilà. N'est-ce pas? Alors, on va y avoir droit à ça.
Et tu sais qu'à une époque, on disait que tu te maries, tu perdais 2 dixièmes, et t'avais le pas mieux. Enfin, perdu au moins deux, bah, sinon trois. Bah,
s'il perd le dixième, il sera pas bien quand même, Daniel Viat. On l'a évoqué brièvement, mais Daniel Ricciardo, lui, continue bien de traîner un petit peu sa peine hein, en ce début de saison. Il avait écopé de trois places de pénalité après un accident qu'il avait causé, d'après les commissaires de piste, de course en Azerbaïdjan. Donc, il savait qu'il allait écoper de trois places de pénalité. Il a terminé dixième de la Q3. On va l'écouter, Daniel Ricciardo, au micro de Lucas. Et ensuite, j'aimerais votre sentiment sur ce début de saison de Renault.
L'objectif était la Q3. L'atteindre, c'est donc une bonne chose de faite. De toute façon, je savais que quelle que soit la place où je me qualifierais, j'allais écoper d'une pénalité. Bien sûr, dixième, c'est mieux que douzième. Je suis plutôt content, même si ma dernière tentative en Q3 n'était pas très bonne. J'ai commis une erreur et dû stopper mon tour. Je pense que nous aurions pu faire neuvième juste devant Daniil. Nous avons quand même fait un pas en avant. Nous n'avions pas pu tester les pneus tendres en essai libre à cause de la sortie de piste de George Russell et du drapeau rouge. Donc, nous avons fait un bon travail.
Bon, Daniel Ricciardo qui tente de faire bonne figure, mais oui, on sent quand même qu'il n'était pas venu pour ça, quoi.
Bah écoute, à part le saut de cabri, enfin, ou de, oui, de kangourou, comme a dit Lucas, pour monter sur le camion, c'est vrai que son caractère naturellement enjoué est soumis à rude épreuve depuis le début de la saison. Là aussi, on va pas avoir la langue de bois, ça va mal chez Renault, pour le moment ça va très mal. On avait annoncé une progression des performances, en tout cas on y croyait. On a d'ailleurs réorganisé l'écurie, vous l'avez vu comme moi, avec des gens qui ont été promus à des postes, enfin espérons que ça aura un résultat, mais à terme, pour le moment, bah clairement, là je vais le dire, puisque le moteur est plus performant dans la McLaren qu'il ne l'est dans la Renault.
Clairement pas le moteur le problème.
Bah, voilà, ouais, ouais, le problème c'est pas le moteur, c'est le châssis, l'exploitation. Alors après on a peut-être pas eu trop de chance non plus, mais bon, attends, la chance ça se provoque en Formule 1. On n'est pas à la place, en tout cas on n'est pas quatrième du championnat puisqu'on est septième au classement général provisoire. Et puis je rappelle,
septième, c'est épouvantable hein, pour
c'est
eux.
C'est incroyable. Ah bah là c'est une dégringolade, ouais, hein, parce qu'on voulait rester quatrième, évidemment à minima, mais se rapprocher des trois premiers. Bah pour le moment on est très très loin de objectif.
Oui. Bah Renault est un grand constructeur, donc être derrière As en Formule 1, voilà, on ne sait pas ce que c'est que As dans le monde de l'automobile quand on connaît pas dans les voilà. Dans la
même si l'arrière de la voiture c'est Ferrari, mais quand même.
Oui, non, mais, oui, ouais, mais ouais, bon, elle est exploitée par une équipe qui s'appelle As. Là, c'est quand même Renault avec la force de frappe de de Renault, enfin en tout cas celle qu'elle devrait avoir. Et c'est sûr qu'avec une McLaren qui est devant avec ce moteur
et
Renault.
Ricciardo volant.
Et Ricciardo et les deux.
Hülkenberg.
Mais oui, c'est deux des meilleurs pilotes de cette grille, sous-estimé sûrement pour Nico Hülkenberg.
Oui. Mais Ricciardo,
il a gagné des grands prix, il est redoutable. Voilà, la seule chose qui pouvait faire sourire Daniel Ricciardo hier, c'était que Nico Hülkenberg avait connu encore pire mésaventure en qualif.
Ouais, parce qu'il est sorti.
Et voilà, et qu'il était qu'il était lui qu'il avait atteint son objectif, qui était la Q3, mais c'est triste d'avoir comme objectif quand on est chez Renault la Q3. Donc il faut que ça voilà, faut que ça progresse.
Lucas, un mot sur Renault, est-ce que tu sens le climat se tendre autour de l'écurie française ?
Ouais, c'est très compliqué de toute façon, et les performances en fait de McLaren mettent encore plus en lumière les faiblesses de Renault. C'est ça le problème en fait, c'est que le moteur fonctionne bien et qu'au niveau du châssis et qu'au niveau de l'appui notamment, c'est pas très très bon. On en discutait avec un quadruple champion du monde qui travaille pour Renault en la personne d'Alain Prost, et il y a aussi des problèmes au niveau de la température des pneumatiques. On n'arrive pas justement à trouver cette fenêtre d'exploitation. Daniel Ricciardo fait en Q3 un tour qui est une seconde plus vite que son tour en Q1, mais on ne parvient pas à l'expliquer. Donc il y a toutes ces zones d'interrogation chez Renault qu'on essaye de lever, mais c'est pas facile, ça prend du temps. Et en plus de ça, mauvaise nouvelle, Nico Hülkenberg a changé son aileron et partira depuis la voie des stands. Donc là, franchement, ça va être très très compliqué. 13e Daniel Ricciardo, il y a eu que 11 dépassements l'année dernière sur ce circuit durant la course. Donc ouais, ça laisse augurer un dimanche un peu difficile pour Renault, même si on espère pour eux que ça se passera mieux.
Comme on est en Espagne, j'ai une explication pour les performances de Ricciardo, ça s'appelle les coronas en Espagne. Ça veut dire qu'il a dû vraiment tout donner. Non, je vais donner le classement des constructeurs, et Renault, je l'ai dit, 7e avec 12 points. Précédent As, 8 points seulement. Et devant, il y a Alfa Romeo Ferrari, 13 points. Il y a Racing Point, incroyable, 17 points. Et il y a McLaren Renault, 18 points. Donc là, on ne peut pas rester comme ça chez Renault, je crois que c'est clair. Là, c'est un état d'urgence qu'il faut instaurer. Je pense que Cyril Habitboul en est pleinement conscient.
Merci Monsieur Vinois.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Une magnifique course, on l'espère, pleine de dépassements.
Absolument. si tu bats le record de 11,
il aurait pu mettre un voilà.
Tu gagnes un cadeau.
Oui, mettons. Oui, mais j'ai failli en plus. Je me suis posé la question, mais. Mais si je bats Louis Amar, je serai heureux.
Ça, exactement. À tout à l'heure, Lucas, au commentaire de ce Grand Prix avec vous, évidemment, messieurs Jean-Luc et Adrien. Ça sera au tour de Christophe Cessieux. On rappelle l'heure de départ, 15h10. On rappelle très rapidement le top 10, Bottas en pole, Hamilton, Vettel, Verstappen, Leclerc, Gasly, Grosjean, Magnussen, Piat et Lando Norris qui est 10e. A tout de suite dans Motor, 13h45 sur RMC.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h48 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez Motors, en direct jusqu'à 14h avec Jean-Luc Roy, avec Adrien Tambay. Lucas Vinoy nous a quittés, il reviendra tout à l'heure,
hein, oui,
à 15h10 pour la Formule 1, parce que dans un instant, Radio Paddock avec du rallye de l'IndyCar et de la Formule électrique. Mais d'abord le direct, c'est du hockey sur glace, France-États-Unis, les championnats du monde, Morgan Morin.
Fin du deuxième tiers-temps et les Américains ont fait gonfler l'addition, but de Patrick Kane, la star de la sélection américaine. 5-0 pour les Nord-Américains contre l'équipe de France. Début du troisième et dernier tiers-temps dans un instant. Des Français extrêmement agacés qui n'ont pas réussi à tromper la vigilance du portier américain. Donc 5-0 pour les Américains à 20 minutes de la fin de ce deuxième match de poule des mondiaux de hockey sur glace. Ça se passe en Slovaquie à Košice.
Merci Morgan. 13h49, tout de suite Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Avec Christophe Plenet. Salut Christophe.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Et bienvenue dans Motor.
Oui.
D'ailleurs, on embrasse Benoît Boutron.
Oui.
Chaleureusement, Benoît Boutron qui est devenu papa il y a quelques jours et on pense très fort à lui en ce Radio Paddock.
Oui, je suis un petit peu déçu, hein, pour tout te dire. Louis, c'est ma première dans Radio Paddock. On m'avait parlé des chemises follement excentriques.
Oui,
de
c'est vrai.
Il est d'une sobriété
absolue. Un bleu. Écoute, pastel très décevant.
Il faut alterner. Je vous promets que très bientôt, je reviendrai flamboyant.
Ça, vous le promets.
Flamboyant comme le rallye du Chili.
Exactement.
Ça, c'est de la transition.
Exactement, Louis, tu es parfait. L'Estonien Ott Tänak sur sa Toyota, qui est en tête depuis la deuxième spéciale, a conservé hier devant le Français Sébastien Ogier les commandes du rallye du Chili, sixième manche inédite du championnat du monde WRC. Avec encore quatre spéciales, soit 58,38 km chronométrés au programme aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut se passer, Jean-Luc?
Bah là voilà, bonne question. Alors écoute, il y en a un qui est plus dans le coup déjà, c'est Neuville.
Ouais.
Il s'est offert
une
série de tonneaux, mais impressionnante. Fort heureusement, on a craint un moment même qu'il ait la jambe gauche cassée. Apparemment, ça n'est pas le cas. Lui, il a dit qu'il serait là pour le prochain rallye, on l'espère.
Au Portugal,
oui. Oui, en tout cas, il a considérablement modifié l'esthétique de la Hyundai. Bon, le principal, j'en plaisante parce que les hommes sont indemnes, hein, mais bon,
bah,
comme quoi on peut se louper. Et c'est la bataille pour le titre. Je rappelle les positions au championnat du monde. Neuville était en tête justement après sa dernière victoire en Corse devant Ogier, 110 points, Ogier 100 points et Ott Tänak 82. Ça veut dire que la lutte pour le titre, évidemment, c'est entre ces trois-là, il n'y a pas de problème. Neuville ne marquera évidemment pas de points. Et je pense que là, dans le calcul et dans la tête, parce que l'écart est d'une trentaine de secondes, hein, entre les deux hommes, bon, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, je n'oublie jamais, va essayer de tout faire pour conserver cette deuxième position, devant un équipage français, le Béléna, qui remonte
à la faveur des problèmes. Quelque part.
Bah oui, à la faveur des problèmes de Jarimati Latvala, une nouvelle fois, je dirais, parce que il est coutumier du fait, malheureusement, Jarimati, qui est rapide, mais qui est plus trop dans le coup maintenant, en tout cas depuis que Tänak l'a largement supplanté chez Toyota. Donc ça va être une belle lutte. Puis tu le disais, c'est un nouveau rallye avec des conditions atmosphériques qui ont été très délicates.
Oui.
Les choix de pneumatiques, évidemment, où là faut une vraie grenouille chilienne et j'en avais pas sous la main. Donc pour savoir quel va être le programme des quatre spéciales en termes de météo, on rappelle qu'il y a un décalage horaire, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas la fin du
rallye. J'avais pas vu venir la grenouille chilienne.
La grenouille chilienne, hein, c'est pas mal. Et elle grimpe un peu haut, ça, c'est là-bas parce qu'il y a des sommets.
Oui, évidemment. La Formule 1 ? Non. L'IndyCar.
18 mois qu'il attendait de savourer le champagne. Pour la troisième fois de sa carrière, Simon Pagenaud a remporté hier le Grand Prix d'Indianapolis, cinquième manche du championnat IndyCar 2019. Le Français qui s'impose devant le Néo-Zélandais Scott Dixon et le Britannique Jack Hervey. Le poids de vin qui a réalisé une fin de course, Jean-Luc, exceptionnelle sous la pluie pour arracher la victoire donc à Scott Dixon, qui l'a dépassé à deux tours de l'arrivée au terme d'une manœuvre millimétrée. Et il a même déclaré que c'était peut-être la plus belle victoire de sa carrière. C'est incroyable ça.
Eh ben écoute, oui, dès que
les circonstances sont délicates, effectivement. Simon était parti seulement 8e hein, sur la grille de départ, aux côtés de Graham Rahal. Et la pole, c'était Felix Rosenquist. C'était la première de sa carrière. On rappelle que Simon a été champion IndyCar. Il a intégré maintenant l'une des plus grandes équipes, l'équipe Penske, la fameuse prestigieuse équipe Penske. Il souffrait un peu par rapport à Newgarden, son équipier. D'ailleurs, c'est Joseph Newgarden qui est en tête du championnat à l'issue de cette épreuve, donc avec 182 points. Scott Dixon, le néo-zélandais, 176 points. Alexander Rossi, pilote américain qu'on a vu en Formule 1, vous en souvenez, et troisième. Et le quatrième, bah, c'est Pagenaud, justement. Alors, on peut dire un mot peut-être de Sébastien Bourdais aussi.
Oui, exactement. Ouais.
Seb qui...
11e de la course.
Voilà, qui a un peu limité les dégâts. On sait qu'il est dans une écurie plus modeste, Seb. Il reste quand même 8e au championnat. Donc, c'est quand même une belle performance pour le Français de Saint-Pétersbourg en Floride.
Oui, l'objectif derrière, ce sera les 500 miles d'Indianapolis.
Voilà, alors...
Sur le célèbre anneau.
Le magique anneau.
Bien sûr, seigneur des anneaux.
Le seigneur des anneaux, bravo. Ce qu'on peut préciser, c'est que ce tracé utilisé pour ce Grand Prix, qui a été rajouté au calendrier, c'est le circuit routier. C'est-à-dire, il y a le fameux infield qu'on prend. On prend dans le sens inverse, d'ailleurs, des 500 miles d'Indianapolis. C'est-à-dire que la ligne droite devant les stands, on la prend en sens inverse, comme la Formule 1, exactement, Adrien. Et comme pour le Grand Prix moto, quand le Grand Prix moto avait lieu à Indianapolis. Parce que ça a été conçu comme ça au départ. C'est-à-dire que la partie d'infield a été conçu pour que on descende par un virage à droite et non pas Daytona, par exemple. Pour ceux qui connaissent Daytona, et je sais que dans les auditeurs de Motors, il y en a plein, l'ovale de Daytona, quand on prend l'infield, au-delà du tri-ovale, d'ailleurs, c'est pas un quadri-ovale comme Indianapolis, alors, si vous commencez à me faire parler des circuits américains, je peux y aller. Là, on rentre dans l'infield à gauche, à l'issue des stands, et bien là, c'est l'inverse à Indianapolis. Mais on aura les essais qualificatifs des 500 miles très bientôt, donc c'est que le mois de mai à Indianapolis, c'est quelque chose d'absolument magique avec Fernando Alonso,
évidemment,
qui sera sur la grille de départ. Et 33 pilotes au départ.
On termine avec la Formule 1.
Oui, la discipline favorite de Jean-Luc, avec le coup double.
Déjà les bonnes habitudes.
Réalisé en principauté par Jean-Éric Vergne, un vainqueur du Grand Prix donc de Monaco. Le pilote français a pleinement savouré un succès qu'il propulse en même temps, du coup, en tête du classement du championnat 2018-2019.
Alors, comme je le dis à chaque fois, respect pour les pilotes et pour Jean-Éric, qui est le tenant du titre, hein, donc tant mieux, c'était une belle course. Bon, un peu comme toujours à Monaco, parce qu'il faut pas le dire, mais j'ai regardé la course également. Il y avait rien à faire pour dépasser.
Petite question de Béotien, j'ai lu, parce que j'ai bossé quand même avant.
Ça sent.
Ce Grand Prix s'est déroulé sur le petit circuit. Quelle est la différence entre le petit circuit et le grand circuit de Formule 1 alors?
En fait, au premier virage à Centre des Votes, au lieu de monter vers le casino, on bifurque vers la droite, vers le port directement. Et on va jusqu'à la nouvelle chicane, cette chicane qui est traditionnellement la chicane qui est à la sortie en fait du tunnel sur le circuit de Formule 1.
Descente du tunnel.
C'est devenu une épingle pour la Formule E et on revient ensuite sur le tracé de la Formule 1 en reprenant par le bureau de tabac jusqu'au virage Anthony Noguès.
Mais on sait que ça fume pas en Formule électrique.
Non,
puis aussi je vais répondre à ta question, c'est parce qu'il faut surtout pas comparer avec les vrais temps des vraies voitures de course. Donc là, c'est un circuit qui est utilisé uniquement pour la Formule E, donc ça permet de pas avoir de temps de référence. Voilà, j'ai répondu à ta question.
Rouler en 50 secondes, donc c'est très très court.
Premier podium en tous les cas à Monaco pour Jean-Éric.
50 secondes de tour.
Oui, en qualif, ils sont descendus tout juste sous la barre des 50 secondes. Donc,
à ton avis, une F1, ça ferait combien?
Là-dessus, sur ce circuit-là, ça irait bien 15-20 secondes plus vite.
Ah oui, mais même une F3 irait plus vite, hein. C'est une évidence.
Oui.
En Formule 3, irait beaucoup plus vite.
Belle quand même consolation pour Jean-Éric Vergne qui voulait tellement s'imposer à Paris.
C'est une belle victoire pour Jean-Éric et puis c'est quand même un championnat où c'est assez serré où on sait pas qui va l'emporter à la fin de l'année.
Un point d'avance sur son coéquipier André Lotterer et 6 sur le néerlandais Robin Vrinch qui s'était imposé
à répéter trois fois. C'est le bruit des moteurs d'ailleurs en Formule électrique, ça fait Vrinch.
J'ai fait hollandais les deux,
piège vous l'attendiez. Hollandais en deuxième langue alors.
Exactement. Bien sûr. Morgan Mori, les hockey sur glace, France, États-Unis, les championnats du monde, où en est-on?
La correction continue en faveur des Américains contre les Français. 6-0, but de Chris Kreider pour les Américains. Encore 16 minutes dans le troisième et dernier tiers-temps. de ce deuxième match de poule des championnats du monde de hockey sur glace en Slovaquie. Donc 6-0 pour les Américains face aux Français.
Merci Morgan. La suite de ce match dans quelques instants dans l'Intégral Sport. Merci Christophe Plenet.
De rien.
C'était parfait.
C'était parfait.
J'ai fait de revenir en deuxième tour.
Bien sûr.
J'ai passé l'oral.
T'es le rookie, mais là t'es qualifié. Là, c'est bon.
Merci. Jean-Luc, Adrien, vous restez là. Vous revenez. Merci à vous. Vous revenez tout à l'heure pour le Grand Prix autour de Christophe Cessieux, Grand Prix d'Espagne. Départ à 15h10. Valtteri Bottas en pole position. Lucas Vinoy vous rejoindra dans un instant l'Intégral Sport avec Christophe Cessieux. Et puis moi, je vous retrouve à 17h. À tout à l'heure.
RMC Motors avec Motorsport TV.